talmudique.
Mon père avait une librairie à Kovno, la ville des provinces, qui était tout de même chef-lieu, c'est la préfecture. Comme c'est très bien, avec la rue principale qui s'appelait le prospect de Nicolas. Et alors, il y avait une certaine clientèle russe. Il y avait un gymnase. Il y avait un gymnase de filles. Par conséquent, mon père avait une clientèle de chancellerie et de lycée. Il y avait aussi les journaux. C'était aussi très important, les commandes des journaux qui passaient aussi par les librairies. La vieille ville était habitée à grande partie par des juifs. Ce n'était pas un ghetto. Il n'y avait pas de ghetto dans ce pays-là. Mais enfin, il y avait cette vieille ville, beaucoup de piété juive, beaucoup de synagogues, beaucoup de lieux d'études. Ça, c'est très important, ça. Quand on prononce le mot Lituanie, et on ne sait pas que c'est une partie de cette Europe orientale où le culte de l'étude était très haut. L'étude de ces livres-là, l'étude de talmudique. Hein. Ce n'était pas du tout, ce n'était pas un judaïsme mystique, c'était un judaïsme au contraire qui s'attachait à l'étude de commentaires, ce qu'on appelle le Talmud. Et c'est en particulier le pays où il y avait les fameux Gaon de Vilna du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, le dernier grand talmudiste de génie. Et c'est sous son influence que se développaient ces masses de juifs d'ancien type. Chez mon père, on parlait russe avec les enfants, n'est-ce pas, l'importance de la culture russe qui est restée très grande, n'est-ce pas, dans mon esprit, dans mes souvenirs. Et les auteurs russes, Pushkin, Gogol, Lermontov, Dostoïevski, Tolstoï, jusqu'à présent, jouissent dans mon modeste esprit d'une très grande place. Et ça, c'était cela, l'avenir. Vous savez, j'ai reçu, il y a quelques années, la visite d'un Israélien. Un Israélien qui était aussi originaire de ces pays de l'Europe orientale. Et en entrant chez moi, il n'est pas ici, n'est-ce pas, il voit l'œuvre complète de Pushkin. Il m'a dit, on va tout de suite que dans une maison juive. Contestablement, non pas de mon cas, et c'était là probablement que se prolongeait mon origine lituanienne, non pas dans les enthousiasmes mystiques, n'est-ce pas, mais dans une très grande curiosité pour les livres. Je dis très souvent, n'est-ce pas, c'était plus intérieur que l'intériorité, c'était un livre.
Shavuot, l'une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme, a eu lieu mercredi et jeudi dernier. À l'origine, fête agricole, elle est devenue avec le temps fête de la révélation de la loi, dont nous avons parlé la semaine dernière avec le rabbin Yann Boissière, fête de la révélation de la Torah au Mont Sinaï, et ainsi fête de l'étude. Fête de l'étude marquée dans toutes les communautés par une nuit d'étude qui se termine au petit matin avec les premières lueurs de l'aube. Étude dont la parole d'Emmanuel Levinas que l'on vient d'entendre nous rappelle à quel point elle fut et sans doute reste-t-elle une des constituantes fondamentales et fondatrices de l'anthropologie juive. Mais ce qui est aussi très marquant dans cette parole de Levinas, qui revient sur son enfance et sur la figure paternelle, c'est son rapport au livre et à l'écrit. C'est là, dit-il, que s'est prolongée mon origine lituanienne, non pas dans les enthousiasmes mystiques, mais pour une très grande curiosité pour les livres. Je dis souvent, ajoute-t-il, que c'était plus intérieur que l'intériorité, c'était un livre. Livre, lecture, interprétation, étude, enseignement, apprentissage du russe et de l'hébreu très tôt, qui vont l'accompagner toute sa vie et qui vont devenir des thèmes majeurs de sa réflexion qu'il va transmettre dans ses cours, conférences et dans ses propres livres. Pour découvrir et approfondir ces différentes questions au cœur de l'œuvre de Levinas, j'ai le grand plaisir de recevoir un de ses profonds lecteurs et commentateurs, Félix Pérez, bonjour.
Bonjour.
Félix Pérez, vous êtes philosophe, maître de conférences en philosophie à l'université de Paris 7 Denis Diderot et spécialiste de la philosophie d'Emmanuel Lévinas, à qui vous avez consacré plusieurs ouvrages et récemment un ouvrage intitulé « Apprendre à philosopher avec Emmanuel Lévinas » publié chez Ellipse en 2016. Lévinas écrit dans « Entre nous » « Il y a des livres dans toute humanité » ne serait-il que livre d'avant les livres, langage inspiré des proverbes, des fables et du folklore même, un être humain n'est pas seulement au monde, pas seulement un in der Welt sein, mais aussi un zum Buch sein, c'est-à-dire un être pour le livre, en relation à la parole inspirée, ambiance aussi importante pour notre exister que les rues, les maisons et les vêtements. Ma relation au livre, dit-il, n'est pas du tout de pur usage, elle n'a pas la même signification que celle que j'entretiens avec le marteau ou le téléphone. Comment comprenez-vous cette réflexion, Félix Pérez? Une des réflexions que Lévinas d'ailleurs reprend dans des variations multiples dans ses autres ouvrages.
Oui, je voudrais essayer de répondre en plusieurs temps, si c'est possible. Et alors, déjà dans la biographie, avec ce qu'on a entendu, mais aussi dans le texte de la signature qu'il fait à la fin de Difficile Liberté, qui est une autobiographie de son œuvre, où il commence par dire « La Bible hébraïque depuis le plus jeune âge, Tolstoï, Pushkin et la révolution russe vécue à 17 ans en Ukraine ». Donc déjà là, on a la Bible hébraïque, c'est-à-dire une littérature. Pushkin, Tolstoï, pour désigner finalement la Russie, c'est encore une littérature. Je veux dire que les différentes approches qu'il peut avoir comme des expériences pré-philosophiques sont des lectures, des livres. Lorsqu'il dit « plus intérieur que toute intériorité, le livre », on entend bien la Lituanie, elle aussi, c'est un livre, c'est le Gaon de Vilna. Donc, nous avons, lorsqu'il parlera dans cette même signature, étrange signature, où, qui fait 8 pages, il y a 32 lignes de biographie, et encore cette biographie, elle ne parle pas de ce qu'il a fait, c'est une biographie intellectuelle. Hein, et tout le reste, c'est Husserl, Heidegger. Ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui vit dans les fantômes, non pas les fantômes d'Ismaël, mais les fantômes des livres. Des auteurs. Il est en interpellation avec des livres. Être français pour lui, cela va être une littérature. Ça veut dire, c'est clair pour lui que c'est Racine, Corneille. Donc on s'ouvre à une dimension à partir de laquelle on peut se questionner, c'est pour cela que je disais il y a plusieurs temps, dans l'avant-propos de l'au-delà du verset, il parle d'une forme d'approche de la littérature dans la Bible et dans les autres littératures. Mais on sent bien qu'il y a quand même deux régimes. Voilà. Il y a le régime de la Torah plus le Talmud, c'est-à-dire déjà, non pas la révélation, mais les livres, donc la pluralité d'individus qui viennent lire et qui ouvrent une lecture talmudique, donc des interprétations, ça fait un livre plus la pluralité. Et de l'autre côté, on se demande, est-ce que, parce qu'il vient citer à côté de cela différentes littératures, bon, chaque pays finalement a le droit à la légitimité de son œuvre, Dante pour l'Italie, Shakespeare pour l'Angleterre, Cervantes pour l'Espagne, Goethe pour l'Allemagne, bon, chaque pays est représenté comme s'il y avait une différence des cultures, et dans cette différence des cultures, la possibilité était approchée de quelque chose qui est une inspiration. Mais cette inspiration, elle est quand même désignée comme l'inspiration prophétique. On sent que ce sont les Écritures saintes qui donnent l'aval, qui donnent comme la cachérisation ou l'autorisation d'avoir la dignité anthropologique d'une littérature. En somme, la différence de ces deux régimes, elle est intéressante parce que on peut poser la question à Lévinas, qu'est-ce qui se passe dans la littérature biblique? La littérature biblique n'est pas approchée en somme, en tout cas par ceux qui pratiquent le judaïsme, comme une littérature que l'on choisit, mais une littérature qui nous désigne en même temps par des prescriptions. Parce que dans ce même ouvrage, la Torah se présente comment ? Elle se présente, elle est libre pour tout le monde. On peut l'approcher comme un récit de narration, des hymnes de grâce, comme il dit, des textes qui peuvent être de la liturgie. Mais ce qu'il dit, lui, nous les Juifs, c'est la prescription. Ça veut dire, hein ? Donc, et il cite ce psaume 119, « Je suis étranger sur la terre, ne me cache pas tes prescriptions, parce que moi, je suis l'homme soumis à des commandements, et c'est dans ce rapport, finalement, à l'interpellation d'autrui, que j'apparais. Donc le livre, si vous voulez, entre dans un rapport d'enseignement. On pourrait se demander toujours, dans cette perspective, et les autres cultures.
Oui.
Et dans ce cas-là, je me demande si Platon n'est pas dans la même situation, parce que lui, si vous voulez, il est dans une relation de dialogue, mais il y a une praxis de Platon.
Oui.
La praxis de Platon, c'est la pensée occidentale. Ça veut dire qu'il s'agit de quoi ? Il écrit la République, c'est là où nous vivons. Il écrit la connaissance de soi, connais-toi toi-même, c'est là où nous vivons. Même des questions comme dans le banquet où il s'agit d'Alcibiade avec l'homosexualité. Il s'agit de la dignité anthropologique de l'homosexualité ou non ? Donc ce sont vraiment les questions qui concernent notre existence et lui-même. Cela, il ne l'a pas eu sous une modalité qui serait la connaissance par la raison sans révélation. Il l'annonce dans l'Apologie en disant « Chéréphon est allé entendre l'oracle de Delphes, qui m'a désigné comme étant le meilleur parmi tous, et je vais vers « Connais-toi toi-même ». Donc, mais ça, c'est une révélation qui est à Delphes. Hein ? Donc, on est dans quelqu'un qui est en mission, qui parle comme pour Dieu. Hein ? Je voudrais ajouter quelque chose. C'est que la question du livre a été, en Occident, très interrompue, alors que pour Lévinas, elle ne l'a jamais été. Bon, vous avez évoqué la librairie, etc., qui est déjà un contexte extraordinaire, comme dans les mots de Sartre aussi, c'est la librairie, hein, de Schweitzer, si vous voulez. Et là, il y a une différence, justement, par exemple, avec quelqu'un qui était cher à Lévinas, qui est Jean-Paul Sartre, parce que, si vous voulez, il n'y a pas de cassure pour Lévinas, avec le livre, alors que pour Jean-Paul Sartre, qui était dans les années 50, comme tout le monde, marxiste ou marxien, si vous voulez, il y avait cette idée, il ne s'agit plus d'interpréter le monde, il faut le transformer. Et cet impératif a conduit, si vous voulez, beaucoup d'intellectuels à envisager le philosophe comme un médecin de la société, et non plus comme quelqu'un qui est un lecteur, c'est-à-dire qui explore les livres pour comprendre le réel. Donc il est passé à un côté transformation du réel, ce qui l'a conduit à considérer le livre ou la littérature comme quelque chose de sous-évalué. Sartre dit carrément « la littérature n'est rien devant un enfant qui meurt de faim ». Ça ne veut pas dire que chez Lévinas, on n'a pas la place de la faim. Vous savez combien elle est considérable. Ça veut dire, il dit même une phrase de Salanter, « Mes besoins spirituels sont les besoins matériels d'autrui hein ». Donc, ça veut dire que c'est considérable. Mais Lévinas a une herméneutique du matérialisme qui va un cran plus loin que Sartre. Sartre a été radical à l'égard de la littérature. Quand vous lisez des ouvrages comme « Qu'est-ce que la littérature ?», vous voyez qu'il est engagé dans une voie qui était provisoire. Il ne reviendra à la littérature qu'après un retour dans le dernier ouvrage, « L'idiot de la famille » sur Flaubert, où il fait de la littérature. Mais pendant longtemps, il a été un écrivain, si vous voulez, qui s'est déplacé, alors que chez Lévinas, le livre n'a jamais été détrôné de sa place, comme vous dites. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower.
Suzanne de Leonard Cohen, c'est votre choix, Félix Pérez. Pourquoi
Eh bien, je dirais déjà une formule de Nietzsche. Il n'y a pas de différence entre la musique et les larmes. Il me semble que la musique, c'est l'émotion. Je pense que quand j'ai aimé cette musique-là, ça n'avait aucun rapport avec les paroles. C'était la musique en tant qu'émotion, en tant que période amoureuse, hein, où je vivais cet événement comme quelque chose d'exceptionnel. Et ensuite, je viens vers les paroles et je me retrouve. And that Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. Je me retrouve avec Jésus qui marche sur l'eau et qui avance sur l'eau comme si c'était possible pendant un certain laps de temps jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Et il me semble que là, on pourrait faire la boucle et voir que nous sommes dans l'entre-deux, l'ego à deux, le je-tu un peu décalé chez Lévinas de Boubert, où on parle de la vie amoureuse. La vie amoureuse qui est approchée chez Lévinas comme une autarcie radicale, où l'on ne voit rien d'autre. Hein. Et je crois un peu qu'on marche sur l'eau lorsqu'on est amoureux, jusqu'à ce qu'on s'enfonce. C'est une expérience particulière.
Alors, vous parlez de l'expérience amoureuse, et Lévinas parle De l'expérience conjugale, qui est quelque chose de complètement différent, mais il est très surprenant parce que dans une des lectures talmudiques, alors qu'il évoque l'exil du maître, quand un cas où le maître doit être exilé, le Talmud dit, au nom de Rabbi Yochanan, il faut aussi exiler les élèves avec lui, parce que, dit Lévinas, la relation entre le maître et l'élève est aussi forte que la relation conjugale. Ça questionne, Félix Pérez.
Oui. Là, je ne sais pas si je répondrai de façon courte ou différente. Je crois que ce passage, c'est dans les villes-refuges.
C'est les villes-refuges dans le du verset, oui.
Et dans ce passage, il y a l'idée finalement que l'école, finalement, quand un maître est exilé, il est exilé avec son école. Il y a une relation presque amoureuse. Quand un maître est exilé, il est exilé avec son école. Donc la relation de maître à élève, comme il dit, est une relation sociale ferme.
Sociale ferme, oui.
Sociale ferme, n'est-ce pas ? Ça veut dire, on comprend bien cela du point de vue de quelque chose de cimenté qui déjà est beaucoup plus une approche beaucoup plus sévère que la relation que j'ai évoquée de la relation amoureuse qui est molle, hein, pour Lévinas, en tout cas c'est le terme qu'il utilise dans Le Moi et la Totalité. Mais je voudrais dire que à propos de cette notion de les villes-refuges ou l'école, si vous voulez, où il est tenu à son école. Je pense à la République de Platon, avec un épisode qui est connu de tous, le mythe de la caverne. Hein ? Parce que dans le mythe de la caverne, Socrate, ou le maître, ou un personnage, il est là dans la caverne, il est enfermé dans l'obscurité avec les autres, et tout à coup il va à la lumière. Et la lumière, qu'il ait été maître en bas ou pas, une fois qu'il a vu la lumière, il devient le maître. Et il a un problème, puisqu'il a vu la lumière, donc il a compris. il a un problème. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je redescends? Mais tu es fou. Pourquoi tu vas redescendre? Si tu redescends, et justement le texte de La République dit cette phrase, il parle avec Glaucon, Glaucon qui est le frère de Platon, hein, parce qu'il se choisit ses interlocuteurs, et il lui dit « Et si quelqu'un entreprenait de libérer les prisonniers et de les conduire vers le haut, à supposer qu'il puisse mettre la main sur lui et le tuer, ne le tuerait-il pas ?» Et Glaucon répond, il le tuerait certainement. Ça veut dire, il va les sortir vers l'extérieur, leur montrer la lumière, alors qu'ils étaient très bien dans leur culture primitive, comme tout le monde, si vous voulez. Ils vont le tuer, et il ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, Socrate va mourir, et il va mourir tué parce qu'il veut faire venir, si vous voulez, de leur contradiction à une vérité. Donc, il est dans la même situation, c'est-à-dire, il doit redescendre dans la caverne. C'est son école qui est là. Il ne peut pas se séparer de son école.
Alors, c'est intéressant, cette référence constante à Platon que vous faites, parce que Lévinas, à la fois, s'y réfère pour la question du bien, par exemple, mais en même temps, dans la relation maître-disciple, il y a une différence fondamentale entre la maïeutique socratique et la manière dont Lévinas pense la relation entre le maître et le disciple, Félix Pérez.
Oui, nous sommes d'accord. Si vous voulez, la question de la maïeutique, chez Socrate, bon, on a un exemple très flagrant pour dire de quoi il s'agit. Il s'agit donc de faire accoucher les esprits. Vous savez que la maman de Socrate était sage-femme, et donc il s'agit de faire accoucher véritablement un être comme corps. Le médecin accouche le corps, le philosophe accouche l'esprit. Et le problème que va rencontrer Lévinas, il est, si vous voulez, en décalé par rapport à... Parce que que fait Socrate, lui? Lui, il confronte ses interlocuteurs à des contradictions pour faire apparaître une réflexion. Et ce qu'il pense, c'est que cette réflexion, c'est un ressouvenir, ou du moins une façon de revenir à quelque chose qu'il n'a pas vécu. Bon, là, c'est un peu, si vous voulez, c'est un magma d'approche qu'il y a chez Platon sur cette affaire de la réminiscence, parce qu'elle peut être mythologique, elle peut être métaphysique, elle peut être philosophique. Donc, si elle est... ce qui intéresse Lévinas, bien sûr, c'est le côté philosophique, parce que lui, ce qu'il redoute, c'est cette idée de se ressouvenir soi-même, c'est-à-dire de remonter à son propre être. Voilà. Et remonter à son propre être, c'est ne pas avoir besoin de l'interpellation du visage de l'autre pour penser. Or, le maître est vraiment un autre, et c'est lui l'absolument autre. Donc, évidemment, il a tout à fait raison. La maïeutique est une espèce de tarsie. Mais il faut comprendre aussi Platon. Platon est dans une situation où il a affaire à la tyrannie. Il y a la question, il y a le problème. La tyrannie empêche les gens de penser. Il faut absolument, c'est ce qu'il dit aux gens, il faut absolument que tu penses par toi-même. Et pour fonder sa pensée par elle-même, peut-être a-t-il tout simplement bâti une théorie ou une mythologie de voilà, il y a une réminiscence, tu peux remonter par toi-même à un monde désincarné où tu avais la possibilité de rencontrer le juste, le bien, le vrai, et là tu les as vus. Et si tu réfléchis bien par toi-même, tu peux remonter à te ressouvenir de ce qui t'est advenu auparavant. Mais Lévinas voit là le commencement de la raison en moi-même. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle l'a priori. Il n'y a rien a posteriori, il y a a priori quelque chose qui serait donné. Et la critique de cet a priori ou de ce commencement de la raison par moi-même, c'est justement ce que fait Lévinas. Il veut solliciter ce fondement. Pour lui, ce que fait Socrate, ou du moins Platon, c'est l'économie de l'interpellation de l'autre. Je ne peux que répondre à l'autre.
Et alors Lévinas, justement, va construire, c'est peut-être cela tout le sens du livre, au sens qu'on essaye de le définir, c'est-à-dire non pas la relation d'un savoir qui est déjà là, d'un savoir qui est déposé de toute éternité dans le livre que pourrait être notre mémoire, mais la relation dialectique, dialogique, entre le maître et le disciple par la question-réponse. C'est-à-dire que l'élève ne peut pas assumer un savoir parce que ça serait un savoir définitif déjà déposé. il pose une question au maître qui, lui, va lui reposer une question et de manière infinie, le livre, on pourrait dire que chez Lévinas, le livre n'est pas, mais le livre est comme dit Blanchot, il n'y a d'explosion que de livre ou de livre que d'explosion. Le livre est toujours en train de se construire par l'altérité du dialogue, ce que vous avez appelé le visage du maître. Et dans ce non-savoir, j'ai pensé, vous avez cité, vous avez voulu écouter Leonard Cohen. Moi, pour moi, Leonard Cohen fut un maître, non seulement de musique, de poésie, de littérature, mais un modèle avec ce quelque chose d'énigmatique qu'il nous a laissé et que laisse tout maître, me semble-t-il. Je pense à ce maître de Lévinas, maître prestigieux, disait-il toujours, que l'on connaît sous le nom de Monsieur Chouchani, mais ce n'était pas son nom. Son nom reste un mystère, un secret et une énigme. Et Lévinas a cet enseignement merveilleux. Il dit à propos de son maître: « Mon maître connaissait 120 interprétations du mot « les morts » dans l'expression « Dieu parla à Moïse en disant « Vaïtaber Adonai el Moshe les morts ». Il ne m'en a révélé qu'une seule, dit Lévinas, et j'ai essayé d'en deviner une deuxième. Les 118 autres significations du verset restent à découvrir. Mon maître emporta leur secret dans sa tombe. » Et ce secret semble essentiel à la philosophie de Lévinas. Il écrit dans les premières pages de Totalité infinie, toujours dans son style si puissant, parce qu'il faut dire vraiment que Lévinas a une écriture extraordinaire, il dit « Le réel ne doit pas seulement être déterminé dans son objectivité historique, mais aussi à partir du secret, et il souligne secret, qui interrompt la continuité du temps historique à partir des intentions intérieures. Le pluralisme de la société n'est possible qu'à partir de ce secret. Il atteste ce secret. » Comment comprendre ce rapport entre le maître et le secret, Félix Pérez?
Oui, alors là, dans ce que vous m'avez dit, il y a trois questions. J'essaye de répondre, je ne sais pas si j'ai le temps.
Allez-y.
Voilà. Alors, sur la question réponse, la question-réponse est une préoccupation. Je ne suis pas obsédé par Platon, mais vous avez compris que, pour moi, Lévinas a un côté grec. Et son côté grec, comme il me l'a dit lorsque j'avais fini ma thèse, je lui ai dit « Mais quelles sont mes fautes ?» Il m'a dit « Pas assez de grec, pas assez de Platon. Pas d'Aristote. Pas assez de Platon. Bah, » Donc, ça m'a un peu conditionné. Donc, je crois que dans la question-réponse, dans « Liberté et commandement », il parle d'un texte qui est le début de la République et, il parle du prologue. Et je dirais en même temps que quelqu'un qui ne parle pas des prologues de Platon, à mon avis, il faut changer de prof. Parce que vraiment, il y a énormément de choses dans le prologue. Et il parle de ce prologue où on se trouve, Socrate va au Pirée pour une célébration d'une cérémonie et il veut repartir. Au moment de repartir, Polémarque vient le voir et lui dit « Vous ne pouvez pas partir parce que mon père vous attend. » Alors il lui dit « Ah bon, mais nous devons partir. » Il dit « Vous voyez bien qu'on est plus nombreux que vous. » Donc c'est la force, quoi. Et lui, il lui dit « Mais je ne peux pas vous convaincre. » Il dit « Il s'agirait de convaincre des gens qui ne vous écoutent pas. » Et alors là, on a les conditions à partir desquelles la République va s'installer. On va avoir affaire au père, à Céphale, qui va pas pouvoir l'écouter, qui va juste parler. Et au moment où Socrate va parler, il va partir à une cérémonie religieuse. Thrasymaque qui se bouche les oreilles lorsque Socrate veut parler. Donc on a affaire à la violence qui existe dans la non-réponse. Et c'est ça qui intéresse Lévinas dans Liberté et commandement. Comment entre-t-on dans les relations question-réponse? Il aperçoit dans Platon quelqu'un qui a compris ce que veut dire parler. Parler, c'est-à-dire écouter. C'est-à-dire en même temps écrire ou répondre. C'est-à-dire le contexte finalement qui est ne pas... quelles sont les conditions de possibilité pour qu'il y ait dialogue? Et il y a aussi celui, quand vous lui dites « Je voudrais te parler de quelque chose, vous dire l'essence de quelque chose », il dit « Mais on ne va pas se mettre à parler de métaphysique ». Donc il existe. Hein, donc il y a chez Lévinas une retenue de la possibilité de parler avec et la maîtrise accepte aussi cette violence de celui qui advient comme un imbécile, il dira même parfois, je crois.
Alors ce qui est intéressant, c'est que Ce dialogue, la question-réponse entre maître et disciple, d'ailleurs Lévinas souligne en disant que il y a une inversion, c'est-à-dire que le maître peut devenir le disciple et le disciple le maître, mais ce qui est le plus essentiel, effectivement, c'est la présence réelle de la parole, et la parole, c'est déjà, comme vous venez de le dire, c'est déjà l'écoute.
Exactement.
Et ce face-à-face de la parole et de l'écoute, c'est ce que Lévinas va appeler la raison, il va appeler aussi la vérité, parce qu'il va dire que la vérité n'est pas la vérité de ce qui est, mais la vérité du dialogue qui existe entre le maître et le disciple. Et là, on va passer, dit-il, de l'idée à la raison, et la raison est visage, dit-il. Et je crois que voilà une belle conclusion et une belle invitation à poursuivre notre conversation la semaine prochaine autour de la question du visage, entre autres, un des thèmes fondamentaux de la pensée de Lévinas. Merci Félix Pérez pour cette passionnante conversation. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Apprendre à philosopher avec Emmanuel Lévinas, aux éditions Ellipse, un livre d'initiation complet, clair, précis et très pédagogique. Et on comprend qu'il sera beaucoup question de Platon. Merci encore Félix Pérez.
Merci beaucoup.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son, aujourd'hui, Manuel Couturier. À la réalisation, fidèle au poste, comme toujours, Dany Journeau. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de Félix Pérez sur le site de l'émission, que vous pouvez réécouter, podcaster, partager et questionner. Koltouv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.